Private Equity Podcast. Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du private equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son expertise, de son parcours et de sa vision du private equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires, avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans Private Equity, votre podcast dédié au Private Equity. Nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui deux invités de marque, Gilles Amsalem et Nicolas De Witt de Taylor Wessing, un cabinet d'avocats international et pluridisciplinaire de premier plan. Gilles, vous êtes Managing Partner du cabinet et à la tête du département Corporate et du groupe US, avec une expertise remarquable dans le domaine des médias, du divertissement et de la technologie. Vous conseillez des clients majeurs et accompagnez les investisseurs américains souhaitant s'implanter en France. De votre côté, Nicolas, vous êtes associé au cabinet et vous apportez entre autres plus de 20 ans d'expérience en conseil pour les opérations haut de bilan chez Taylor Wessing Paris. Spécialisé dans le capital investissement et le droit boursier, vous assistez une clientèle nationale et internationale dans des transactions complexes. Gilles, Nicolas, cher maître, nous sommes très heureux de vous accueillir dans Private Equity pour partager votre expertise et un thé le temps de cet après-midi.
Antoine, merci de nous accueillir. Nous sommes ravis d'être là avec vous aujourd'hui.
Exactement pareil.
On est pas mal, on y va. Une première question pour démarrer cet entretien. Pouvez-vous nous présenter votre cabinet Taylor Wessing?
Alors Taylor Wessing, Antoine, vous l'avez dit, c'est un cabinet international, mais qui a une particularité. C'est un cabinet à Paris qui a été créé en 2003, donc qui est un cabinet français indépendant en fait, malgré ce nom très international, et qui est membre d'un réseau international qui est ce réseau Taylor Wessing. Donc à Paris et dans le monde, nous sommes full service avec un focus média, tech, life science et énergie. Notre département corporate à Paris, c'est 5 associés, 15 collaborateurs et nous couvrons l'ensemble des disciplines du corporate, du M&A au capital market en passant évidemment par le private equity qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui.
Une volonté entrepreneuriale dans la création de ce cabinet ?
Complètement. Des entrepreneurs qui décident de créer un cabinet à Paris, qui a besoin d'un réseau international parce qu'une clientèle internationale, ouais. Et donc qui trouvent cette solution de ce réseau tout en gardant un projet entrepreneurial. Et donc tout naturellement, une psychologie, un ADN qui s'oriente vers le private equity, puisqu'on est dans un environnement d'entrepreneurs dans le private equity.
Très naturellement. Quelle place occupe le private equity dans votre activité? Et profitons de cette question pour savoir également comment vous pourriez définir le private equity.
Alors, la place est importante, puisque, comme je vous l'ai dit, le département corporate a une activité importante dans le secteur du private equity du fait de cet ADN entrepreneurial. On a la particularité de couvrir l'ensemble du spectre du private equity, seed, venture, cap dev, et puis LBO évidemment. Alors ma définition du private equity, peut-être que Nicolas tu veux reprendre la parole, mais moi j'ai une définition un peu générale du private equity. C'est pour moi le private equity, c'est un mode de financement des entreprises, des entrepreneurs, un alignement en fait, une communauté d'objectifs entre des entrepreneurs et des investisseurs. Et cette communauté d'objectifs, c'est une sortie à terme qui satisfasse tout le monde. Donc voilà, pour moi, c'est un mode de financement particulier qui permet aux entrepreneurs de renforcer leur entreprise pour l'amener où ils souhaitent l'amener pour une sortie satisfaisante et attire des investisseurs qui vont avoir un retour sur investissement qui va les satisfaire. Donc ce qui est intéressant, c'est cet horizon de commun de sortie, mais on pourra peut-être élaborer un peu plus avant sur cette définition, parce que parfois c'est aligné, parfois c'est moins aligné, et les enjeux du private equity seront peut-être là demain.
Et vous êtes là pour sécuriser et accompagner cela. Nicolas,
Oui, alors on peut rajouter que le private equity, bah, c'est du private, c'est-à-dire effectivement, c'est des sociétés non cotées, comparées aux sociétés cotées, qui seraient effectivement du public equity, et c'est de l'equity, c'est-à-dire effectivement du capital ou du quasi-capital. Mais de manière plus prosaïque, en fait, et de la manière dont on s'est organisé chez nous, c'est qu'en réalité, le private equity, c'est effectivement toute la chaîne de financement des sociétés dans le non-coté. Et c'est-à-dire, ça commence par le venture capital, ensuite par le gross, nous, qu'on a regroupé chez nous au sein, on va dire, d'une même équipe. Et ensuite, on a le LBO, c'est effectivement toutes les opérations leveragées qu'on a regroupées au sein d'une autre équipe. Bien évidemment, on rajoute à cette couche-là l'infra, puisque aujourd'hui l'infra peut être financée par du private equity, et on a également une équipe qui s'occupe de ça.
Pas de restructuring.
Alors,
peut arriver.
Alors non, mais c'est vraiment un sujet. Donc évidemment, c'est un sujet d'actualité. Mmh. Et on est intervenu sur une opération récente de séparation par un grand industriel d'une activité qui a été reprise par un fonds. Mmh. Voilà, un industriel dont on entend parler en ce moment. C'est une opération assez complexe. Et effectivement, c'est vrai que une évolution du private equity, c'est ce distress ou ce spin-off, comme on dit dans le métier, mmh. Cette faculté à intervenir sur des business units qui seraient susceptibles d'être plus attractives si elles étaient financées par un fonds d'investissement. Donc ça fait partie aussi de nos compétences, mais c'est une matière qui nécessite de la surface, de la compétence. Donc tous les fonds n'interviennent pas en distress ou en spin-off. Oui. Généralement, les fonds sont assez matures, assez structurés. Voilà. Mais c'est effectivement un sujet sur lequel on est présent.
Vous avez, de par ce rôle, une double approche auprès de deux auditoires assez différents, à la fois les fonds d'investissement et les managers de sociétés de l'autre. Mmh. Comment vous appréhendez cette particularité et est-ce qu'il y a une symbiose ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est vrai que c'est un positionnement hybride, mais qui s'est organisé naturellement au sein du cabinet en fonction de l'appétence des associés. Je voulais dire, on est une équipe d'entrepreneurs, donc en fonction de cette appétence, nous sommes organisés. Donc, nous avons des associés qui sont plus positionnés sur le venture, le cap dev, et des associés qui sont plus positionnés sur le PE, leverage, le PE classique côté fonds. Donc, on pourrait considérer que cette situation est susceptible de créer des conflits, mais en réalité, elle est source de beaucoup de points positifs au bénéfice de nos clients. Comme je vous l'ai dit, ce mode de financement, quelque part, aligne les objectifs. Dans un environnement où les objectifs sont alignés, finalement, on a été vers une standardisation des process et on a été aussi vers des points d'équilibre, évidemment. Et donc, quand vous avez la faculté de travailler d'un côté et de l'autre, vous avez une faculté à avoir une approche assez pragmatique et efficace sur le fait de trouver ce point d'équilibre dans les discussions entre les investisseurs et les entrepreneurs. Donc les conditions finissent par s'aligner et avec cette double vision, on a cette capacité à être efficace dans notre conseil, qu'on travaille d'un côté ou de l'autre pour faire la pédagogie d'un côté ou de l'autre des attentes des uns et des autres.
Et ce qui permet, j'imagine, de renforcer vos équipes aussi et...
Exactement, puisqu'on mutualise les équipes, elles travaillent des deux côtés, donc elles ont une culture des deux côtés, donc ça leur permet d'avoir une bonne appréhension des problématiques auxquelles sont confrontés les entrepreneurs ou les LPs ou les fonds. C'est tout bénéfique pour nous. Et puis, ça donne une vision plus globale du marché, en fait, plus pertinente. Et on en reparlera plus tard, mais l'évolution du private equity va accentuer cette diversification, de mon point de vue, par les LPs, de leur façon d'investir dans le private equity.
Et on a certains clients, effectivement, qui sont ravis de savoir qu'on peut travailler des deux côtés d'une certaine manière, puisqu'on a la connaissance des deux côtés. Et comme le disait Gilles, de pouvoir trouver une solution médiane lorsque ça coince un petit peu. Ce qu'on a voulu éviter, c'est d'être identifié comme étant d'un côté plutôt que de l'autre. Typiquement, on a des cabinets concurrents qui se sont mis, par exemple, du côté des fondateurs et qui ont rédigé des modèles de contrats, par exemple, côté fondateur. Et quand ils se retrouvent du côté investisseur et qui nous avancent en tout cas des clauses qui sont effectivement pro-investisseurs, on leur dit « mais utilise plutôt ta clause pro-fondateur ».
Prends l'autre modèle. Lors des opérations de venture capital qui changent de manière très importante et se complexifient autant qu'on puisse nous le comprendre, comment voyez-vous de votre côté évoluer justement les termes et conditions de ces opérations de venture ?
Alors c'est une très bonne question. En fait, les termes ont été assez standardisés, on va dire jusqu'à fin 2021 avec les évolutions qu'on a connues, mais essentiellement en provenance des États-Unis. Ok ? Fin 2021, il y a eu un shift global, puisque ça n'a pas été qu'aux États-Unis, bien évidemment, on est passé d'un monde pro-fondateur où les deals effectivement étaient organisés et on va dire diligentés par les fondateurs. On est passé donc dans un monde où les investisseurs ont repris la main. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, le changement s'est fait sur les valorisations. Les investisseurs américains, en fait, ont décidé d'investir sur des valorisations moins chères. Et donc, il n'y a pas eu de changement sur les termes, puisqu'à partir du moment où on achète moins cher, ben, finalement, on est content de son investissement. En Europe, c'est différent, puisque les valorisations sont restées assez élevées, et ce qui a poussé les investisseurs à essayer de se protéger différemment. Et donc, les termes ont évolué en Europe. Et on a vu trois types de termes arriver, ce qui avait été peu vu en tout cas dans le passé dans le monde du private equity. C'était d'abord la participating leak pref, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est qu'effectivement les fonds touchent à la fois d'abord leur investissement au moment de l'exit et ensuite ils touchent au prorata avec tous les autres actionnaires. Donc ils touchent deux fois, c'est pour ça qu'on l'appelle participating. Et donc ça a créé quand même un changement. On a vu également des termes comme les full ratchet qui permettent aux investisseurs de se reluer dans le cadre d'un round ultérieur, finalement comme s'ils avaient investi au prix de ce tour. Ça n'avait jamais été vu dans les 10 dernières années précédentes. Et puis enfin, on a vu ce qu'on appelle du tranching, c'est-à-dire qu'effectivement, les investisseurs un peu plus prudents, au lieu d'investir one shot, se sont mis à investir au fil de l'eau sur plusieurs tranches. Donc ça, c'est une des caractéristiques qu'on a vues à partir de fin 2022, on va dire, en Europe. Aujourd'hui, les choses se stabilisent un peu plus et les termes reviennent un peu à ce qu'ils étaient avant, parce que les valorisations, effectivement, sont en train de revenir à des niveaux plus raisonnables.
Donc, c'est-à-dire que cette normalisation, en tout cas, vous évoquiez une période d'ajustement avec des termes et conditions qui ont basculé dans une direction très différente et aujourd'hui un retour à une position plus médiane.
C'est exactement ça.
Est-ce qu'on peut parler un peu d'opération et j'aimerais savoir si vous auriez quelques anecdotes amusantes, intéressantes. Inspirante,
je ne sais pas, mais intéressante, oui, parce que dans ces opérations de capital investissement, parfois il y a des soubresauts, et c'est là qu'on découvre, on va dire, la vraie personnalité, soit des investisseurs, soit des fondateurs. Et une opération récemment sur laquelle on a travaillé, d'ailleurs entre cette période, on va dire 2022-2023, on est sur une opération série A de 15 millions. Ça fait 5 mois qu'on négocie et puis la veille du closing, l'investisseur décide de plus faire l'opération. Donc on se retrouve dans une situation très compliquée, effectivement, où la société commence un peu à être à court de cash et avait beaucoup parié sur effectivement cette opération. Donc deux solutions. D'abord, il a fallu qu'on négocie avec le fonds une indemnité sur la base d'une rupture abusée des pourparlers. Généralement, on obtient dans ces cas-là les frais qui ont été encourus dans le cadre de cette opération, c'est-à-dire pas grand-chose en réalité pour la société. Là, on a argué du fait que la société effectivement avait dépensé de l'argent, avait fait du cash burn pendant cette période de négociation. Et donc, ce cash burn devait être indemnisé, ce qu'on a fini par obtenir et on était très contents.
Quand vous parlez de cash burn, donc des dépenses opérationnelles qui anticipaient l'arrivée de ce financement.
Exactement. Wow. Donc, on était très contents. Je vous cacherai bien évidemment le montant, mais il était relativement élevé, ce qui a permis en tout cas à la société de continuer à survivre et de lever finalement 3 mois plus tard avec un nouvel investisseur pour le même montant. Donc là-dessus, voilà, c'est ce type d'opération peut arriver et c'est là qu'on s'aperçoit que l'utilité d'un avocat sur ces opérations est tout à fait primordiale.
Mais Antoine, moi c'est marrant, j'ai vécu l'expérience exactement inverse, mais qui, je vais vous la raconter rapidement parce que ça illustre deux aspects de la tendance actuelle. C'était un entrepreneur donc, qui avait envisagé de faire entrer un fonds dans son capital pour différentes raisons. Et les conditions du fonds étaient telles, un peu comme les a décrites Nicolas, c'est-à-dire qu'on était un peu dans un marché qui semblait au fond pro-fonds, si vous voulez. Les conditions du fonds étaient telles dans la façon dont ils étaient s'impliqués dans la gestion quotidienne que la veille du closing, le manager, enfin le dirigeant, a coupé, a décidé de ne pas faire l'opération. Mais en même temps, c'est quand même un petit monde, ce monde du private equity. Il faut éviter d'insulter l'avenir. Et j'ai trouvé qu'il a eu une démarche extrêmement élégante, c'est-à-dire que lui-même a pris la tâche du fond pour lui dire, lui expliquer pourquoi, mais pour prendre en compte le fait que le fonds avait eu des dépenses pour arriver jusque-là. Donc il a pris en charge les dépenses du fonds dans le cadre des audits et du processus de négociation qu'il avait eu. J'ai trouvé ça étonnant, mais c'est pour vous dire que quand même les choses bougent et évoluent. Et c'est des comportements qu'on voyait moins avant. Donc,
cela signifie surtout que ce dernier se retrouverait dans le marché dans une position favorable et en évitant d'avoir une réputation.
Exactement. Exactement. J'ai trouvé ça très malin. Ça m'a surpris, je vous avouerai, mais j'ai trouvé ça intelligent.
Je ne sais pas d'où vient cette idée, mais ça me semble être une très très bonne impulsion et en effet une vision long cours parce que, a fortiori en private equity, ça tourne.
Exactement. Ouais. Mais quelque part, ça illustre bien aussi cet effet de balancier ou cyclique aussi, évidemment avec l'écrasement des valeurs,
ouais.
L'appétence des dirigeants pour une opération de private equity, si les conditions du fonds sont trop exagérées, peut diminuer. Vous voyez ?
Mais ce que vous décrivez tous les deux, c'est justement un marché qui, en définitive, a une grande agilité et s'équilibre.
Tout à fait.
Alors cet équilibre reste instable, évidemment, mais il y a cette capacité d'ajustement et assez rapide.
Exactement. De toute façon, la volatilité économique actuelle va nous obliger à être extrêmement
agile.
Agile,
ouais.
Exactement.
Et quelle place occupe l'international dans votre activité? Vous avez évoqué justement dans cette démarche entrepreneuriale le choix d'un réseau international. Comment ça se traduit aujourd'hui chez vous?
Alors, elle est importante, évidemment, parce que d'abord, on travaille en synergie avec nos amis du réseau, donc qui ont des contacts qui sont beaucoup plus internationaux que ceux que nous pouvons avoir, même si on a eu toujours la démarche de se propulser à l'international pour accompagner ses clients internationaux. Comme vous l'avez dit, je suis très présent sur le marché US, donc j'ai aussi beaucoup de clients US qui investissent en France. La France a toujours été un pôle d'attraction international, surtout dans le tech, le software. Donc ça nous a amené des clients internationaux qui étaient intéressés par des cibles françaises. Moi, je suis persuadé du dynamisme de notre écosystème qui est lié au fait qu'on a de très bonnes écoles d'ingénieurs, que la recherche est aussi financée, qui suscite dans ce monde d'innovation beaucoup de création. Et donc, comme le marché du private equity s'internationalise et que les fonds étrangers regardent plus grand, plus loin, hein, parce que aussi les cibles se raréfient sur leur propre marché, ils doivent penser plus grand. Donc, bien entendu, l'international a une part importante dans notre activité.
Et en effet, sur la partie tech, on a une... je ne vais pas dire une surprise, mais en tout cas une prise de conscience à l'occasion de la création de Mistral, par exemple.
Exactement.
Où certains posent la question aux trois cofondateurs, mais c'est super, vous êtes revenu en France. Et regarde l'interlocuteur en disant, mais non, on n'a jamais quitté la France. Oui, mais vous étiez chez Meta. Oui, mais on était à Paris.
On était à Paris, oui.
Et la partie tech, justement, crée aussi cette révélation qui est qu'en définitive... la question géographique est un choix pour les individus qui est très importante, et que ce soit au travers de fonds étrangers qui viennent directement investir en France, ou plus historiquement de LPs étrangers qui atteignent la France par l'intermédiaire de fonds locaux, ça fonctionne.
Exactement.
Et on a un bon territoire pour ça.
Sincèrement, les fonds de private equity étrangers ont très bien compris que la compétence de nos entrepreneurs français. Ils sont très conscients de ça, de la qualité en fait de nos entrepreneurs. Et alors parfois, c'est vrai que c'est presque plus des acquireurs que des acquisitions technologiques qui sont en train de le faire. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher la compétence de nos ingénieurs, de nos créateurs, de nos entrepreneurs. Et surtout dans des opérations de build-up où ils se disent la technologie finalement c'est un point, mais c'est surtout en fait les compétences qu'ils sont en train d'acheter.
Et vous êtes là pour les accueillir?
Avec beaucoup de plaisir.
Et juste pour ajouter, on s'est aperçu qu'il y a eu une croissance très très importante effectivement de l'image de la France à l'international dans les 10 dernières années. Nous, avec Gilles, qui voyageons beaucoup, on a pu s'apercevoir qu'au départ, il y a peut-être 10 ans, l'image de la France était un petit peu écornée sur des problématiques fiscales ou sociales. Tout ceci a changé. Et puis avec les licornes qui ont poussé, effectivement, aujourd'hui, les investisseurs étrangers regardent la France de manière beaucoup plus lucide et intéressé. Quand on voit effectivement Mistral AI, quasiment l'ensemble des investisseurs sont américains. Aujourd'hui, on bénéficie aujourd'hui en France de cet immense attrait de la technologie française. Et notamment aujourd'hui, on est arrivé quand même en deuxième position au niveau européen après les Anglais, alors qu'on était facilement troisième ou quatrième, généralement après les Allemands.
Donc vous reconnaissez, alors je ne sais pas si ça, cette régression unique le justifie, mais en tout cas que cette orientation résolument innovante et vers l'entrepreneuriat porte ses fruits.
Absolument. Et ça, c'est au bénéfice aujourd'hui de la tech française, voilà, qui rayonne dans le monde.
On lui souhaite. On lui souhaite de continuer. Revenons sur l'EPE et prenons un tout petit peu de perspective et on a l'habitude ici d'essayer de se projeter. Et l'angle, la date que nous prenons, c'est 2050. Selon vous, quels sont les défis et les opportunités qui se présentent à échéance 2050 dans cette industrie ?
Alors Antoine, excusez-moi, c'est pas de la perspective, c'est de la prophétie. Parce que 2050, dans un environnement qui aussi mouvant que le nôtre. Écoutez, moi, je suis très confiant pour l'avenir du private equity, parce que, si vous voulez, dans un environnement où ni les banques, ni l'État ne sont susceptibles d'accompagner le risque, et être entrepreneur, c'est financer et accompagner des risques, je suis persuadé que le private equity sera le partenaire indispensable de cet accompagnement. Et dans un environnement aussi risqué que le nôtre, aussi volatile, aussi incertain en termes d'innovation, de digitalisation, de mouvement, si vous voulez, de mobilité internationale même, d'environnement. Je suis persuadé que le private equity a un bel avenir. Maintenant, pour moi, c'est un environnement qui va se confronter à une internationalisation accrue, on en a parlé. Parce que la compétition va être de plus en plus rude, parce que sur les métiers qu'on connaît, les cibles vont être beaucoup plus exigeantes ou beaucoup plus rares. Donc ça signifie qu'éventuellement, sur ces secteurs qu'on connaît, les leviers seraient plus faibles. Mais là, moi, c'est plutôt du moyen terme. Hein. 50 ans, je ne sais pas, c'est compliqué. Mais
2050, mon dernier fils aura 27 ans. Bon. C'est une réalité qu'on espère toucher.
D'accord, voilà. D'accord. Donc les levées éventuellement seront plus faibles sur ces secteurs qu'on connaît. Complexification réglementaire à laquelle on devra faire face. Donc c'est pour ça que je pense que les avocats ont quand même un bel avenir. Dans cet environnement très concurrentiel, je pense qu'il y aura une consolidation des acteurs du private equity. Et une appétence pour une diversification de l'offre, c'est-à-dire des partenariats entre acteurs qui ont des disciplines différentes. Donc je pense qu'on va aller vers une offre beaucoup plus complète au bénéfice des entrepreneurs intéressés. Après, comme c'est un environnement assez mobile, on fera certainement face à des flat turns, des downturns, plus que ce qu'on a été confronté ces dernières années. Donc nous, c'est extrêmement pédagogique, parce qu'on a quand même des collaborateurs qui font du private equity depuis 4-5 ans au sein de l'équipe, et qui n'ont jamais vu un downturn, et donc qui ne pensaient pas que ça pouvait exister. Donc c'est assez marrant, on a des moments sympas au sein de l'équipe. Ces histoires de spin-off vont être d'actualité. Et puis, toutes ces problématiques de digitalisation vont aussi être d'actualité. Je reste persuadé que, quand même, sur des secteurs en mouvement, très innovants, qui vont concerner la santé, l'environnement, la créativité sera là. Et on fera des poches 2020 de private equity. Des poches où les valorisations vont continuer à susciter l'emballement, l'euphorie des investisseurs. Donc, ça va être un marché, en fait, finalement, assez splitté, où vous allez trouver ce type d'investissement, mais également des fonds secondaires qui vont intervenir de plus en plus pour accompagner les sociétés qui n'ont pas atteint leurs objectifs de 2018-2020, si vous voulez, et du distress et spin-off pour accompagner celles qui sont en difficulté ou profiter d'opportunités industrielles qui sont laissées à l'abandon dans des groupes industriels. Donc voilà un peu... quid aussi des économies émergentes, c'est un point. Il est possible qu'elles se structurent suffisamment pour attirer pas mal d'investissements, donc à voir. Mais là encore, les problèmes climatiques, les problèmes de sécurité, d'environnement économique sont une question importante. Donc voilà, mais je suis assez optimiste pour l'avenir du private equity, comme vous le sentez. Donc, il faudra qu'on soit agile, il faudra qu'on soit mobile. Il faudra qu'on diversifie nos zones d'intervention et qu'on intègre aussi ces évolutions technologiques dans la façon dont on accompagne nos clients.
Et justement, il y a un point dont on n'a pas du tout parlé pour ce 2050. Qui investit dans les fonds de private equity en 2050?
Alors là, je n'aurais pas la boule de cristal de Gilles déjà pour...
Non mais personne n'a de boule de cristal ici, donc on...
Aujourd'hui, effectivement, on a une tendance pour que le private equity soit accessible à tous. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce que recherchent les fonds. Ils cherchent effectivement à toucher le grand public, puisqu'aujourd'hui, c'est une masse d'investisseurs très importants, mais qui sont aujourd'hui des investisseurs très professionnels. Aujourd'hui, tout le monde veut, entre guillemets, y goûter. Et c'est pour ça qu'on ouvre au grand public. Donc, on voit des fonds private equity grand public émerger de ci, de là, et qui seront certainement de plus en plus nombreux en 2050. Donc, il est possible, effectivement, qu'il y ait une partie de l'épargne aujourd'hui du grand public qui se retrouve dans le private equity. Et ça fera toujours effectivement des montants d'investissement très importants. Moi, je voulais juste ajouter un point, c'est que on réfléchit à 2050, peut-être réfléchir un tout petit peu à court terme. Aujourd'hui, on voit deux petites choses.
Il y est arrivé mieux que moi.
C'est que d'abord, il y a plus de difficultés à lever des investissements pour les fonds. Notamment aujourd'hui dans le venture, parce qu'effectivement la tech avait pris des valorisations très importantes, que ça a peut-être fait un peu frémir certains investisseurs qui ont préféré investir soit dans les obligations, soit aujourd'hui dans les actions cotées. Mais ça veut dire qu'en revanche, d'abord, il y a une opportunité pour le LBO, à partir du moment où les taux d'intérêt vont commencer à baisser, donc le LBO va repartir. On nous dit qu'aujourd'hui, les entreprises françaises sont très saines, et ça va pousser les entreprises, à la fois tech et aujourd'hui rentables, d'être encore plus saines, puisqu'effectivement, on n'aura plus d'argent public. Aujourd'hui, on nous parle de rigueur. Donc, il faut oublier aujourd'hui l'argent public qui peut arriver dans les sociétés. Et donc, les fondateurs, hein, donc les managers, vont devoir être beaucoup plus prudents dans la gestion de leur cash. Ce qui fait qu'effectivement, on va avoir une population qui va devenir de plus en plus aguerrie, on va dire, à ce genre de crise, et qui vont faire des champions. Donc moi, je suis très très confiant effectivement sur le fait qu'aujourd'hui, cette crise que l'on est en train de vivre, effectivement un peu d'assèchement des fonds du private equity, va revigorer entre guillemets l'industrie et va faire repartir ça très 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 vite.
Ça me plaît pas mal. On a, j'ai une question pour vous, j'en ai encore deux, mais comment votre profession pourra s'adapter à ces enjeux justement et ces mutations? Alors, on négocie les termes si vous voulez, peut-être pas 2050, on peut le faire un peu avant, mais quelles sont selon vous les choses à ne pas rater ou sur lesquelles il va falloir s'adapter pour pouvoir accompagner cela?
Alors j'ai une anecdote pour vous.
Ça me va.
Je travaillais avec un de mes associés anglais sur une opération et nous étions côté cible.
Ouais.
Donc comme tout début d'opération, il y a une LOI qui est signée et on transfère à NDA. Donc avec mon associé, on fait un magnifique contrat de confidentialité. Ouais. Un magnifique NDA côté enfin, pro-cible, si vous voulez. On l'envoie au fond avec lequel on est en contact. Et 10 minutes après, on reçoit un markup du NDA qui est fait par Gary EI. Et donc, on est quand même sidéré de la rapidité avec laquelle le markup est revenu à nous. Et on regarde les markup qui ont été faits, si vous voulez, et c'était assez pertinent.
C'était assez bon.
C'était même très pertinent. Il avait quand même spoté tous les sujets qui devaient être spotés quand on était côté investisseur. Bon. Après un moment d'interrogation, pas de panique, mais quand même d'inquiétude.
Oui, c'est,
hein, c'est humain.
Oui.
La tension est redescendue et je me suis quand même posé la question. Alors effectivement, ils utilisaient un outil d'intelligence artificielle pour faire ce commentaire. Mais à la fin du fin, le sujet, c'est quand même la sécurité dans cet environnement du private equity. Et la sécurité, dans un environnement AI ouvert, dont on ne connaît pas les sources, et qui a quand même pas mal d'hallucinations de temps en temps, on a quelques exemples d'avocats qui ont subi ces hallucinations, si vous voulez, la signature d'un conseil est quand même fondamentale. Donc, tout ça pour vous dire, bien sûr qu'il faudra qu'on s'adapte à cet environnement sur l'aspect technologique, par exemple, digitalisation. Hein. Mais je pense que c'est nous qui allons intégrer ces outils. Parce que à la fin, les clients ne pourront pas prendre le risque de ne pas avoir quelqu'un qui leur dise « vous êtes en sécurité ». Vous comprenez ? Donc ça, c'est un premier point. Donc ça veut dire que les cabinets d'avocats vont avoir à investir dans des outils qui vont leur permettre de mieux accompagner leurs clients. Ça, c'est un premier point. Je pense que les cabinets vont devoir se focaliser sur la valeur ajoutée demain. C'est-à-dire avoir un conseil qui renforce les fonds sur ou les entrepreneurs sur ce qui est essentiel pour eux. Donc ça va être une tendance. Spécialisation sectorielle, elle est déjà là, mais elle va s'accentuer peut-être avec des niches plus spécifiques. Et puis il y aura des effets de taille en fonction des opérations. Par exemple, quand on intervient sur une opération de spin-off avec un effet de levier, c'est des opérations extrêmement complexes quand on est en contact avec des grands groupes que seuls des fonds très matures peuvent appréhender. Donc là, les cabinets qui auront la capacité d'intervenir sur des opérations sont des cabinets qui auront la faculté d'avoir les compétences internes et la taille nécessaire pour accompagner les acteurs de ces métiers. Voilà. Donc il va y avoir, bien entendu, des évolutions. Il va falloir faire preuve d'agilité, comme on l'a dit, mais on est prêt.
Ça me plaît pas mal. En termes d'AI, ce que je retiens, deux choses. Premièrement, il y a une question de données, d'origine, d'entraînement, de confidentialité de ce avec quoi... Quel matériel a été utilisé pour entraîner et s'assurer que ça reste bien chez vous et que ça ne se balade pas à l'extérieur. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est que c'est un support, c'est un outil supplémentaire qui peut, en exécution pure, faire gagner du temps, en effet, et l'utiliser intelligemment est une bonne chose. Mais pour autant, on n'est pas du tout en train de dire que
on sera en sécurité.
On va être AI contre AI pour négocier un deal ou un NDA en phase initiale. Ça me rassure. Une dernière question pour finir cet entretien. Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter à tous les deux et à Taylor Wessing, justement, pour ce 2024 ? Déjà bien entamé, mais on a envie de vous souhaiter des choses. Ce serait quoi ?
Nous, on souhaite continuer à grandir comme on l'a fait ces 10 dernières années, continuer à faire grandir nos équipes, continuer à accroître notre visibilité sur le marché auprès de nos clients et nos prospects. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est l'objectif qu'on s'est fixé au sein de l'équipe Private Equity. Alors dans dans toutes les thématiques qu'on a citées, hein, que ce soit Venture Growth, LBO ou Infra, et on espère qu'effectivement on sera dans les leaders de demain.
Nous souhaitons également de bien réussir notre déménagement, Antoine, puisque à la fin de l'année, on sera installé aux 12 rues de la Paix.
C'est voilà, une invitation.
Et je peux vous dire que gérer les opérations de private equity plus un déménagement dans un cabinet d'avocats, c'est une tâche ardue.
Et à titre personnel, on a une chose particulière, vous souhaitez ou pas ?
Que l'équipe s'entende toujours aussi bien et qu'on s'amuse toujours autant, parce que c'est le cas. Voilà. Mais sur le private equity, un dernier point que je voulais ajouter.
Bien sûr.
Il y a quelques éléments qui pourraient nous aider. Il faudrait quand même sécuriser tout ce qui concerne les sorties des managers. On est dans un environnement un peu fluctuant. Je pense que la France aurait intérêt à légiférer sur cet aspect-là. Les clauses de good et bad liver, les décotes, pas décotes, c'est un sujet un peu mouvant. Et je pense que si la France arrive à sécuriser un peu cet environnement, on a un très bel avenir qui s'offre à nous.
Sur les questions d'exécution forcée ou de mesures dilatoires.
Oui, de manpack aussi, effectivement, sur la fiscalité des manpack aujourd'hui qui n'est pas encore réglée et qui va peut-être donner lieu à beaucoup de contentieux dans les années à venir.
Oui, on l'a connu historiquement et malheureusement.
On n'a toujours pas de sécurité dans la matière, oui, exactement. Voilà.
On le souhaite pour les opérations à venir, futures, parce que le débouclage est toujours beaucoup plus tard et il est très désagréable pour l'avoir vécu de croiser quelques années plus tard des managers qu'on a pu accompagner qui se retrouvent dans une situation d'incompréhension totale. Et,
exactement.
Si on pouvait avoir un peu plus de sécurité en la matière, ce serait parfait. Et une dernière chose avant de nous quitter, et c'est une tradition dans le podcast. Qui voyez-vous à votre place ? Qui devrions-nous inviter ?
Ouais, très malthusien, Antoine. On vous propose d'inviter Laurence Lapeyre, notre associé qui est dédié au fonds d'investissement.
Je reprécise. Je reprécise. Vous avez eu tous les souhaits favorables pour 2024 concernant le cabinet, à l'extérieur du cabinet.
Écoutez, moi je pense à un entrepreneur qui s'appelle Michael Berdugo qui vient d'intégrer dans le cadre d'un build-up un groupe. Il vient de vendre sa boîte, un groupe sous LBO. Et je pense que ça a été une expérience vraiment intéressante pour lui. Et je crois qu'il serait très heureux en tant qu'entrepreneur de partager sa vision d'une opération comme celle-là. Voilà. Donc c'est l'ancien président d'ExpertLine qui vient d'être acheté par une autre société. Et moi, Michael, c'est quelqu'un qui mériterait de vous faire part de son expérience. Ce serait une expérience côté entrepreneur, je trouve.
C'est une très bonne chose. Michael, vous êtes le bienvenu si vous nous écoutez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps de ce thé. Ravi d'avoir pu échanger ensemble aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci infiniment de nous avoir reçus.
Avec grand plaisir.
Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.